Bonjour, cet épisode a été enregistré le 13 septembre 2010. Architect est un podcast sur les sujets d'architecture en français. Cette nouvelle formule du podcast reste disponible en audio, mais elle existe également en vidéo. Les épisodes vont maintenant avoir une longueur de l'ordre de 20 minutes. L'adresse de référence reste blogs au pluriel .msdn.com/architect. Vous y trouverez des liens pour vous abonner au podcast ou voir les vidéos sur Channel 9. Je suis Benjamin Guinbertière, architecte en système d'information au sein de la division plateforme et écosystème de Microsoft.
Et je suis Thomas Conté, également architecte en système d'information au sein de la même division chez Microsoft.
Voilà, donc aujourd'hui, Thomas, nous allons aborder tout un tas de sujets.
Absolument.
Donc, d'abord le contenu pressenti pour les prochains épisodes, histoire de présenter un peu ce qu'on a en tête. Quelques rappels donc aujourd'hui sur le cloud computing et la plateforme Azure.
Tout à fait.
Ensuite, on va parler d'un white paper sur Azure, puis de Windows Azure.
Un petit tour d'horizon de Java sur la plateforme Windows Azure, quelques rappels.
D'accord. Et puis quelques actualités autour de Windows Azure. Donc, contenu des prochaines sessions. Donc, dans cette nouvelle formule, il va y avoir un nouveau contenu un peu moins formel où on va mêler un peu actualité, sujet de fond, vidéo et avoir, enfin, sous forme de vidéo d'audio, sachant que l'audio reste importante et que donc on doit pouvoir écouter les épisodes sans forcément avoir accès à la vidéo. C'est-à-dire que ce qu'on montre en fait n'a aucun intérêt.
C'est juste un complément, en fait. Voilà, juste pour illustrer.
Exactement.
Bon, c'est bien.
Exactement, c'est pour illustrer. Et puis voilà quoi. Donc on va avoir une focalisation quand même assez importante sur Windows Azure parce qu'on est un peu monomaniaque sur le sujet en ce moment.
Et ouais, on parle beaucoup de ça.
Ouais,
Faut
voilà.
bien
Donc
avouer.
on a tous les deux une chemise bleue.
Ah oui, c'est
C'est
prévu.
c'est prévu. Donc voilà.
On sera toujours en bleu, non, peut-être pas.
Non, il y a des jours où on va changer quand même. Parce que moi, je change la chemise toutes les 2 semaines.
Ah bah oui, c'est pour ça. Voilà.
Ouais.
Moi, c'est tous les mois.
Ah oui, bon, d'accord. Et donc le tout sera en lien avec des sujets d'architecture en entreprise. Donc, on va avoir d'autres sujets, comme par exemple les sujets d'intégration avec WCF, Windows Communication Foundation, Windows Server Fabric. D'autres sujets encore
Certainement Windows Phone, qui est
Oui.
quand même une des grosses actualités de l'année.
Bah
Voilà, Windows
oui.
Phone 7, plutôt sur les scénarios d'entreprise. Donc on peut imaginer connexion au système d'information, synchronisation, travail offline, etc.
Appel de web services divers.
Absolument. Et puis tout ce qui va tourner autour de la plateforme web de Microsoft et son utilisation en entreprise. Donc plutôt les frameworks, on va dire, plus formels comme ASP.NET MVC. Et puis la façon dont on va déployer ça sur des fermes de serveurs. Comment on va gérer le cycle de vie de l'application
Ouais.
web,
Tout ça en
la
rapport avec l'ALM,
déployer,
etc. Oui.
etc. Voilà
Application
exactement.
Lifecycle Management.
Absolument.
D'accord. Très bien. Donc nous passons sur la partie rappel sur le cloud computing et la plateforme Windows Azure, parce que comme on a parlé pas mal de ça, bon, il y a eu le tout premier épisode d'Architect qui était sur une introduction au cloud computing d'une façon générale et comment est-ce que Microsoft implémente ça avec la plateforme Azure. Là, l'idée, c'est en quelques diapos, quelques phrases, d'expliquer un peu ce qu'il y a derrière ces concepts et comment se présente la plateforme Windows Azure. Donc, premier axe, private cloud versus public cloud, sachant qu'on a également entre les deux le dedicated cloud du cloud communautaire. Donc, le public cloud, qui est la façon la plus simple de comprendre les choses, c'est que on a la représentation d'Internet qui est le cloud, le nuage, et puis on va vouloir héberger les applications dans Internet. Donc pour faire ça, on va se retrouver avec des problématiques spécifiques à Internet, à savoir une grande montée en charge, le fait qu'il puisse y avoir beaucoup d'utilisateurs, que les utilisateurs aient besoin tout de suite des choses. Donc il y a des problématiques de self-service, d'automatisation, de data center de grande échelle, de consolidation pour réduire les coûts, etc. Donc tout ça, c'est le public cloud. Et donc on voit que ça correspond à une discipline particulière de l'informatique. Et cette discipline qu'on appelle le cloud computing, ou l'informatique en nuage, on va vouloir l'appliquer également dans l'entreprise. Et donc ça, c'est le private cloud. Donc on peut typiquement imaginer une business unit qui dit, moi j'ai besoin d'un bac à sable SAP pendant 3 semaines et je le veux dans 10 minutes. Et puis je paye via de la refacturation interne, voilà. Donc ça peut être l'aspect du private cloud et le cloud communautaire entre les deux, qui va être le fait d'avoir un cloud hébergé dans des data centers qui appartiennent au ministère de la Santé pour avoir un cloud communautaire sur les problématiques de santé en France, parce qu'on voit bien qu'il y a des problématiques assez particulières. Donc voilà un premier axe qu'on peut avoir sur la partie cloud. Alors après le premier axe, si on passe au deuxième.
Ben voilà, deuxième axe.
Ou au second, parce qu'il n'y a pas de troisième.
C'est vrai. Donc après avoir vu les axes publics, privés, communautaires,
ouais.
Qu'est-ce que le deuxième axe permet de catégoriser qu'est-ce qui reste à la charge du client et qu'est-ce qui est géré par le prestataire cloud, on va dire. Donc c'est là qu'on retrouve les trois acronymes standards de l'industrie, on va dire, qui sont devenus standards, qui sont les as a service, donc ouais. L'infrastructure as a service, la plateforme as a service et le software as a service.
D'accord.
Donc ils sont un peu les trois niveaux de cloud computing qu'on retrouve communément aujourd'hui. Donc le premier, le IaaS, donc l'infrastructure as a service, ça consiste à externaliser l'infrastructure physique finalement chez un prestataire.
D'accord.
Donc le prestataire va fournir une machine virtuelle vide, entre guillemets, charge au client d'installer l'OS et tout ce qu'il y a au-dessus. L'OS, la base de données, les frameworks et l'application évidemment. Donc ça permet de se décharger de tout ce qui est, on va dire, gestion physique de data center, les racks, les machines, le câblage, etc.
Donc pour être un peu schématique, IaaS, je démarre par l'hyperviseur, quoi. Enfin, l'hyperviseur m'est fourni.
Exactement. La plateforme de service va déjà nettement plus loin, puisque le prestataire va s'occuper de tout jusqu'à l'environnement de développement et laisser simplement au client le soin de déployer son application, pour en parler.
D'accord.
Donc au-delà, donc l'OS est fourni, la base de données est fournie, le framework est fourni, et quand je dis fourni, il est fourni et géré. Donc c'est le prestataire qui s'occupe de le mettre à jour, de le patcher, etc.
Donc là, le PaaS, en gros, on me fournit les API.
On fournit les API, moi je package mon application et je la déploie.
D'accord.
Avec évidemment, on a un modèle, dans ces cas-là, il y a un modèle qui permet généralement au client de demander quel type d'infrastructure il veut avoir en dessous de son application, combien je veux de front au web, qu'est-ce que je veux comme base de données, des choses comme ça. Et le dernier niveau, c'est le software as a service, où donc là, le client délègue tout au prestataire, donc y compris l'application. C'est là que je vais trouver, par exemple, de l'application mail. Un service mail dans le nuage. Donc le prestataire gère tout de A à Z et le client va simplement administrer ce service qu'il achète.
D'accord, donc là, ce qui est fourni, c'est carrément le logiciel tout fini.
Exactement.
D'accord, impeccable. Alors ensuite, on a la partie private cloud où là, il y a une offre, entre autres avec HP, qui est un de nos partenaires, avec lequel on s'entend pas mal. Et donc, on a une démonstration de tout ce qu'on peut faire en termes de private cloud au Microsoft Technology Center, ici les Moulineaux, au MTC. Et là, on va se concentrer un peu plus sur la partie publique cloud. Donc, comment est-ce que ça se présente au niveau Microsoft ?
Alors, en public cloud, on a deux grandes gammes, on va dire, de solutions. On a tout ce qui est, tout ce qu'on va appeler, entre guillemets, online, et puis tout ce qui va être Azure. Donc, ce qu'on va trouver dans online, ça va correspondre à la catégorie SaaS, donc Software as a Service.
D'accord.
Dans online, on a Exchange Online, SharePoint Online, Communications Online, CRM Online, Dynamics CRM Online.
D'accord.
Tout ça, on le regroupe dans une suite qu'on appelle Business Productivity Online Services.
D'accord.
Alias BPOS, parfois on entend cet acronyme.
Enfin, BPOS pour la partie Office et puis Dynamics pour la partie CRM.
Okay. Absolument. Et donc là, l'idée, c'est de prendre ces services qu'on connaît bien, les serveurs, Exchange, SharePoint, etc. À part qu'au lieu de les installer chez moi à demeure, eh ben, j'achète simplement un service, l'Exchange en question ou le SharePoint.
Tant de boîtes aux lettres.
Administré par Microsoft, je veux 150 boîtes aux lettres et voilà. Toute la partie PaaS et IaaS, donc infrastructure et plateforme, ça c'est le domaine de la plateforme Azure.
D'accord.
Donc Windows Azure et les autres modules, on va dire, de la plateforme.
Bien, alors maintenant, un petit rappel sur la plateforme Windows Azure.
Bonne idée.
Trois briques.
La première, Windows Azure, proprement parlé, ne pas confondre la plateforme Windows Azure, qui est l'ensemble des briques, et Windows Azure, qui est la première de ces briques, et dans laquelle on va trouver l'environnement d'exécution, le stockage et des API de gestion, hein, d'administration qui vont être d'automatiser cette plateforme. Donc, par exemple, automatiquement, d'accord, ajouter des instances, créer des services, etc.
Et puis, le Content Delivery Network.
Tout à fait. Content Delivery Network qui va permettre de cacher, en fait, les objets, notamment les images, les vidéos, afin de les amener au plus près de l'utilisateur, puisqu'on a des data centers régionaux un peu partout dans le monde qui permettent d'amener ces contenus-là au plus proche de l'utilisateur.
Mmh. Une vingtaine, voire plus.
Oui, absolument.
Alors, SQL Azure.
SQL Azure, bon, comme son nom l'indique, on imagine bien, hein, SQL Server dans le nuage, c'est la base de données relationnelle,
ouais,
en tant que service.
Et App Fabric.
App Fabric, ça fait quoi ça déjà?
Alors, ça, Service Bus, parce que j'essayais de dire que les titres et que toi tu dis le contenu, mais tu l'as vu,
j'ai le truc.
Alors, Service Bus, ça permet de se connecter, la connexion de web service typiquement. T'es à l'extérieur sur une web farm Azure et t'as besoin de te connecter à des web services qui sont au sein de l'entreprise. Et bien en fait, depuis le data center de l'entreprise, tu vas pouvoir avoir une connexion sortante sur Internet, ce qui est plus facile que d'avoir une connexion entrante.
C'est vrai.
Et donc tu vas exposer tes web services via le service bus. Et typiquement, la web farm Azure va elle-même aller se connecter au service bus également. Et c'est là qu'ils vont se rencontrer. Donc voilà. Et tout ça est vérifié avec l'Access Control Service qui regarde si tout le monde a le droit de faire ce qu'il faut.
Donc là, on peut imaginer des applications hybrides en fait quelque part, ouais, avec une partie qui va être dans le nuage et l'autre partie qui va rester à demeure.
Exactement.
Et l'App Fabric va permettre de faire le pont entre les deux.
Exactement. Voilà, voilà.
Très bien. Benjamin, tu veux nous parler d'un white paper que tu as publié récemment.
Exactement, un peu avant les vacances.
Ah, c'est loin déjà.
Oui, ça fait un certain temps.
Bon. Ouais,
donc comme comme les gens l'ont lu pendant les vacances,
tout
du
à
coup,
fait, sur la plage.
Dit, voilà, ouais. Je vais en parler après.
Ok. Alors, de quoi parles-tu?
Alors, l'idée, c'est de dire, j'imagine que j'ai une SS2I dans laquelle il y a 20 000 personnes à peu près. Mm-hmm. Et dans ces 20 000 personnes, il y a une saisie des temps qui se fait principalement le vendredi après-midi, mais il peut y avoir des gens qui sont en retard et qui vont saisir plutôt le lundi après-midi ou des choses comme ça.
Bon. Ok.
Donc dans ce cas-là, le scénario, c'est de dire, alors c'est le début du white paper, c'est de dire, bon, très bien, j'ai 80% des gens qui saisissent le vendredi après-midi, et comme ça se fait sur un serveur web de la saisie et que le serveur est déjà un peu bien plein, on veut déporter ça sur Azure.
Ok, uniquement la saisie.
Uniquement la saisie, sachant que le résultat de la saisie, lui, va dans un ERP qui reste à demeure. On ne va pas envoyer l'ERP dans le nuage.
Donc, on est justement dans le cas typique d'une application hybride.
Voilà.
J'ai une partie qui est un peu, j'ai des problèmes, je suis limité en ressources, je veux l'externaliser, mais évidemment, je ne veux pas non plus révolutionner mon système.
Donc là, ce qui se passe, c'est que on suppose dans ce white paper en fait, qu'on est au niveau des spécifications générales. Mm-hmm. Et donc, on va avoir tout le raisonnement qui va permettre de dire comment est-ce que j'externalise dans le nuage cette application que le vendredi après-midi, en prenant en compte des problématiques de coûts, en prenant en compte des problématiques d'architecture applicative, en regardant au niveau sécurité comment est-ce que ça va se passer, est-ce qu'on va créer un compte pour chacun, etc. Enfin, bon.
On va pouvoir utiliser l'identité de l'utilisateur qui est déjà connecté au réseau d'entreprise.
Exactement. Oui.
Hein, donc,
exactement. Donc, on a donc une première partie avec le scénario, puis après, deuxième partie avec la conception elle-même. Donc, dimensionnement et opportunité, l'idée, c'est de voir quels sont les... est-ce que ça vaut le coup? De combien on va libérer notre ferme web en termes de requêtes par seconde, et donc de combien de serveurs on va avoir besoin sur Azure.
Ok. Ensuite, combien ça va coûter aussi?
Et combien ça va coûter pour avoir une idée, effectivement. Ouais. Ensuite, on va avoir le mécanisme de débordement, c'est-à-dire comment est-ce que je vais pouvoir dire le vendredi, parce que les utilisateurs, eux, ils s'en fichent de savoir si c'est sur Azure ou si c'est à demeure.
Ça, c'est sûr.
Donc, en fait, il faut qu'il y ait une redirection, que donc là, on va garder une redirection à demeure, mais qui va rediriger juste sur Azure rapidement, et puis après, l'utilisateur continue à faire ses saisies, puisque c'est ça ce qui est consommateur. On va avoir le lien avec le système interne, donc le RP. Donc, comment est-ce que je fais le lien avec l'ERP, puis également l'authentification et l'autorisation. Donc là, on va voir les mécanismes de fédération d'identité. On va s'appuyer sur ADFS, par exemple.
OK.
Et sur WIF, Windows Identity Foundation, pour pouvoir consommer les tokens qui ont été produits par ADFS, qui lui-même aura fait ça avec Active Directory.
Active Directory.
Et le lien avec l'ERP, avec le service bus et l'access control.
D'accord.
Et puis également, on va avoir dans le lien avec l'ERP une autre considération à prendre en compte qui est que, si on a plusieurs interactions avec l'ERP, comme on veut dégager la charge de l'ERP également, puisqu'il y a beaucoup de saisies, on va faire en sorte que l'application gère elle-même dans son propre état, au sens stateful de applicatif, la saisie en cours, et qu'à la fin de la saisie, quand l'utilisateur est OK, ça soumette cette saisie et que c'est seule cette soumission sollicite l'ERP.
D'accord, quelque chose, un badge, enfin quelque chose comme ça.
Une soumission asynchrone, mais en tout cas,
on va garder une file.
Voilà. Plutôt que sur chaque saisie de temps d'avoir 6, 7, 8, 10 sollicitations de l'ERP, on n'en a qu'une.
D'accord.
C'est l'idée. De façon à ce que l'essentiel de la charge soit pris par la ferme web.
Par la ferme web.
Et puis après des problématiques de déploiement, donc en lien avec l'ALM aussi, l'Application Lifecycle Management. Ensuite on voit un peu les modifications qu'il y a apportées à l'application existante. Et puis comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin avec par exemple le fait de pouvoir saisir aussi depuis l'extérieur de l'entreprise, le fait de pouvoir avoir un worker role qui permette de gérer aussi des problématiques de saisie dans l'ERP, mais là de façon plus asynchrone, et puis être capable de reprendre les choses et tout. Bon.
D'accord.
Donc voilà, en fait, un peu ce
qui est intéressant, qui montre bien qu'on n'est pas obligé de reprendre une application de zéro pour partir sur le nuage. Et qu'on peut vraiment étudier, on va dire, l'existence de façon modulaire et choisir les briques chaudes, on va dire, pour elles les mettre dans le nuage.
Bon, et puis, je pense qu'un des intérêts est aussi le raisonnement qu'il y a.
Alors, c'est l'étude, en fait, d'opportunité qui est combien ça me coûte, de quoi j'ai besoin dans le nuage, combien ça coûte dans le nuage, et puis essayer d'être capable de calculer son ROI.
Voilà, exactement.
Voilà, donc ça permet d'avoir un modèle de calcul.
Exactement.
Fantastique.
Donc, sur Windows Azure, on fait tourner du .NET, c'est ça ?
Ah, du .NET, oui, principalement, mais aussi d'autres choses.
Ah.
Ouais, comme par exemple du Java.
Ah ah.
Eh oui, c'est possible. Donc, on peut effectivement développer en Java pour la plateforme Azure.
Oui.
Voilà. Donc, on développe avec quoi ? Avec d'abord un SDK. D'accord, donc on a un SDK Windows Azure pour Java.
Software Development Kit.
Absolument, c'est exactement ça que ça veut dire. Qui permet essentiellement d'accéder au stockage. Stockage Windows Azure, donc les tables, les queues, les blobs, tout ça est packagé dans ce SDK. Et ensuite, avec quoi on va développer ? On va développer CodeUpUse avec Eclipse. On va faire un projet web application classique. On a en plus des tools, donc des Windows Azure Tools pour Eclipse, dans lesquels on va trouver des outils qui vont faciliter la tâche du développeur, comme par exemple un Storage Explorer qui permet d'accéder à ces éléments de stockage pendant le développement pour débugger ou voir si tout fonctionne. Donc voilà, les tools, le SDK pour Java, pour Eclipse. On trouve tout ça sur Windows Azure for Windows Azure 4J.org,
Java.
Et sur Windows Azure for i, donc 4E.org,
pour Eclipse.
Pour la partie Eclipse, voilà. Alors, hormis ça, on peut utiliser tous les frameworks web habituels. Il n'y a aucune contre-indication. Donc, on peut faire du Spring, du Strut, tout ce qu'on veut, du moment qu'on s'exécute, on va dire, dans le runtime Java.
D'accord.
Voilà. D'accord. Alors, deuxième étape, développer, c'est bien, mais généralement, on a besoin d'une base de données quand même. Alors, le stockage Azure, ça fournit un certain nombre de services, mais on aime bien aussi avoir une base de données relationnelle. Ça tombe bien, on en a une dans Azure, c'est SQL Azure.
Pour faire du SQL.
Exactement, du SQL, comme du SQL Server, on va dire. Alors, la compatibilité SQL Server fait que on a un très bon support en Java aussi, puisque dans l'environnement Java, on a un driver JDBC, fourni par Microsoft, qui est actuellement en version 3.0, sorti en avril 2010. Donc on trouve ça sur download.microsoft.com, si on cherche JDBC driver, on tombe là-dessus. Donc ça permet de faire l'accès bas niveau, on va dire, SQL Server, mais ça marche parfaitement bien avec SQL Azure, évidemment.
Tu nous as mis une adresse courte aussi, mais elle n'est pas prononçable.
Non, il vaut mieux faire une recherche. Ce sera plus simple. Alors, on va rarement faire du JDBC direct. On va typiquement utiliser un framework par-dessus, comme Hibernate, hein, ouais. pour faire du mapping relationnel objet.
Ouais. Hein.
Et là encore, pour Hibernate, par exemple, puisque c'est celui que j'ai testé, en tout cas, hein, pour lui, SQL Azure, c'est exactement comme un SQL Server. Donc, on le configure comme pour se connecter à SQL Server. On utilise le dialecte SQL Server et tout ça fonctionne bien. On va juste avoir une chaîne de connexion qui est la chaîne de connexion SQL Azure, donc qui est un peu différente d'une chaîne de connexion standard. On trouve des exemples de ça assez facilement.
C'est une chaîne de connexion qui est compatible avec SQL Server en revanche. C'est-à-dire qu'on peut tester avec SQL Server et ensuite déployer avec SQL Azure.
Typiquement d'ailleurs, comment est-ce qu'on fait dans un développement typique hein, en local par exemple, on prend un SQL Express.
Ouais.
Et là,
c'est pas cher.
Non, c'est vrai, hein, c'est facile à installer. Mmh. Et ça s'utilise parfaitement bien aussi depuis un environnement Java, hein, idem.
D'accord.
Pareil, même driver. On développe en local et ensuite, quand on déploie ça dans Azure, eh ben, on change la chaîne de connexion pour pointer sur SQL Azure.
Ok, et donc comment est-ce qu'on déploie?
Comment est-ce qu'on déploie?
Bah oui. Ah,
ça, c'est une excellente question. Déployer, donc voilà, donc c'est bien, on développe pour Java, maintenant il faut déployer. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'utiliser l'aspect PaaS de Azure, mais dans un cadre Java, d'accord.
Mm-hmm.
Donc l'aspect PaaS, c'est quoi? C'est là, on va dire la flexibilité, hein, la possibilité de rajouter des instances dynamiquement, d'en enlever, et puis surtout d'avoir un environnement qui est entièrement pris en charge par nous-mêmes,
ouais.
De l'OS jusqu'au runtime, hein, donc avec tout ce qui est lié à mise à jour de l'OS, etc. Alors pour ce faire, en fait, on va packager finalement Tomcat tout entier comme une application Azure, d'accord. Donc pour faire ça, en fait, on a besoin du SDK, Windows ouais. Azure, dans lequel il y a des outils en ligne de commande qui permettent de créer des packages pour déployer dans Azure. Et puis pour faciliter la tâche de prendre Tomcat et de le packager là-dedans, on a un certain nombre de scripts qu'on va trouver sur code.msdn.microsoft.com/winazure-tomcat.
Mmh.
Et dans lequel ce sont, alors c'est très simple, hein, c'est des scripts, c'est des batchs, hein,
ouais,
des
formats,
qui vont manipuler le SDK Azure et qui vont pouvoir mettre dans un package un JRE Java et un Tomcat.
Ouais.
Packager tout ça, ça fait un petit package qui fait quand même dans ses 80 mégas, hein,
ah oui.
Donc il n'est pas tout petit, mais on le déploie une seule fois. On le déploie une seule fois dans Azure. Une fois qu'il est dans Azure, ben on peut en instancier autant qu'on veut, après avec les mécanismes Azure. Donc on a avec ça un Tomcat, on va dire, vide dans Windows Azure. Et on va utiliser les mécanismes habituels pour déployer sa web app. Donc avec Tomcat, il y a une page d'administration qui permet de déployer War. Ou alors on a des plugins Tomcat pour différents environnements, pour Maven, pour Eclipse. Tout ça fonctionne comme d'habitude, il suffit de pointer directement sur le Tomcat sur Azure.
D'accord.
Et on va pouvoir utiliser les mêmes mécanismes aussi Azure, tels que le staging et la production. On peut avoir un Tomcat de staging, un Tomcat de production, etc. etc.
Bon, impeccable.
Bah oui, c'est simple.
Donc, il y a de quoi faire du Java sur Azure également.
On va faire du Java sur Azure. Donc, voilà, dans les semaines et mois qui viennent, on va lancer plusieurs initiatives autour de Java dans Azure. Donc, des articles plus pour les développeurs, montrer ouais. comment on utilise Azure depuis Java. Et puis peut-être des opérations un peu, on va dire, promotionnelles pour aider les développeurs Java à démarrer sur Azure.
Ouais, d'accord. Ok, bon, très bien. Bon, alors nous passons à la rubrique dernières actualités, principalement autour de Windows Azure. Donc, première des actualités, AppFabric ACS V2.
Allons bon.
Alors, donc ACS, Access Control Service. AppFabric, c'est la partie de Windows Azure dans laquelle il y a le service bus et l'access control. Et donc, il y a une nouvelle version qui est sortie en août 2010, donc récemment, et qui permet de fédérer les identités avec des fournisseurs d'identité Internet. Alors, ça fait tout ce que faisait ACS V1.
Hein. Ah oui.
Mais en plus, dans les grandes nouveautés, il y a le fait de pouvoir faire de la fédération d'identité avec des grands fournisseurs d'Internet. Par exemple, il y en a un qui a 500 millions de comptes, c'est Facebook.
C'est qui, ça? Ah oui, Facebook.
Ouais.
Ah ouais,
bah ouais. d'autres qui n'ont pas non plus que deux utilisateurs, Google, Yahoo ou Windows Dive ID.
Et c'est quoi tout ça? Ça utilise quoi comme protocole?
Alors, ça dépend des fournisseurs. Typiquement, Yahoo ou Google vont être en OpenID. Facebook, ils sont en en Facebook Connect. Ah, et oui. C'est une API spécifique, mais ils sont en train de passer à OAuth 2.
D'accord.
Voilà, donc ACS s'occupe de faire le lien entre ses fournisseurs d'identité et en aval une application WIF, un relaying party WIF, Windows Identity Foundation. Et entre autres, on peut avoir en aval ou en amont d'ACS V2 Active Directory Federation Services. Mmh. Alors le fait de le mettre avant ou après, ça sert pour si on veut faire les transformations de revendications de claims par exemple. Si n'importe qui vient d'ACS par exemple, on va dire c'est un Internet User.
Ouais.
C'est ADFS qui va faire ça et qui va aller fournir ça aux applications du domaine.
D'accord.
C'est une des possibilités. Bon. Donc voilà, il y a plein de choses à creuser là-dessus. On mettra sur le blog quelques liens.
Absolument.
Voilà, voilà. Alors, autre nouvelle. La PDC.
La PDC. Il y a encore une PDC cette année ?
Oui, la Professional Developer Conference.
Il n'y en a pas déjà une l'année dernière ?
Si, mais là, comme il y a pas mal de nouveautés Azure et tout, entre autres la sortie de Windows Phone 7, tout un tas de choses comme ça, on a refait une.
Il y a de l'actualité.
Mais il y a dans sa forme, il y a une nouveauté.
D'accord.
Il y a que 1000 places à Redmond au lieu d'être à Los Angeles.
Ah oui.
Mais...
C'est un petit comité.
Non. C'est un grand comité parce qu'en fait, c'est retransmis sur Internet, etc.
D'accord.
Et entre autres, la session d'ouverture, le keynote, sera retransmis bien sûr sur Internet. Mais si vous voulez venir dans les locaux de Microsoft y assister.
Ah bah oui, ça a l'air sympa ça.
Bah oui, vous pouvez aussi.
Donc on peut regarder en live de chez soi ou alors venir au centre de conférence.
Exactement.
Eh ben, on a des sièges confortables, un grand écran, et puis plein de gens de Microsoft qui posent des questions et tout.
Voilà.
Super.
Donc ça, pour s'inscrire, il faut aller sur Facebook. Donc il y a une adresse qui redirige vers Facebook qui est linktome.me/pdc10liveparis. Enfin, pareil, on le mettra sur le blog.
Oui, hein, il vaut mieux.
Oui.
Ouais, ça paraît bien. Ok. Bon, ben, venez nombreux.
Voilà. Et on vous y retrouvera. Dis donc, t'aurais pas changé de chemise, toi ?
Ah si, si, c'est vrai, j'aime bien changer de chemise en cours de journée, comme ça, deux, trois fois par jour.
Ouais, en moins d'une demi-heure, comme ça, tac, hop.
Ah ouais, et puis en plus, sans qu'on me voit, hein, pendant qu'on regarde les slides, là, hop, hop, hop.
Planqué derrière les slides, Moi, j'ai juste enlevé les rayures, mais tu vois, c'est la même.
C'est très fort.
Ouais. Bon, eh bien, ressources, retrouvez les ressources à blogs.msdn.com/architech, A-R-C-I-T-E-C-H. Au revoir.
Et à la prochaine fois.